Vessie, un tabou, c'est le titre de la conférence qui sera donnée mercredi par Procenec Toutet pour les messieurs.
L'occasion de comprendre ce que sont les problèmes de vessie, l'incontinence, quand ça vient et surtout comment prévenir.
Et avec nous pour en parler, Julien Lambert, physiothérapeute, bonjour.
Bonjour.
Alors, monsieur Lambert, à quoi est-ce qu'on reconnaît un problème de vessie ?
Alors, je pense qu'il est important de définir déjà une vessie normale, alors définir le cadre de la normalité. Donc, on dit en général qu'on devrait être capable de contenir l'émiction sans faiblesse et d'expulser sans effort, ce qui se traduit aussi par à peu près 4 à 8 émissions sur la journée, une nocturne et des volumes d'à peu près 300 à 400 millilitres. Donc ça définit un petit peu le cadre de la normalité. Ensuite, les problèmes de vessie, ils peuvent être se présenter sous différents aspects. Alors, il y a des choses qui sont très connues, ce sont les infections des voies urinaires, la vessie. Donc là, les gens ont des douleurs abdominales, des brûlures. Ils remarquent aussi que l'odeur de l'urine a changé, que sa couleur. Mais il y a aussi d'autres signes comme les faiblesses du jet, donc la miction, les impériosités, c'est-à-dire des envies récurrentes, pressantes et qui sont aussi très rapprochées dans le temps. Et naturellement, vers la fin, les incontinences, donc les pertes involontaires d'urine.
Donc l'incontinence, c'est un des problèmes qui peut être lié à la vessie.
Exactement. Il y a plusieurs choses, mais en général, l'incontinence n'est pas vraiment une maladie en tant que telle, mais c'est plutôt une symptomatique d'autres pathologies.
Est-ce qu'il y a une évolution des signes ? On commence d'abord par avoir plus fréquemment envie d'uriner, et puis ça évolue avec jusqu'à de l'incontinence, ou est-ce qu'on peut avoir n'importe quel trouble d'entrée ?
Alors voilà, ça dépend toujours des causes. Alors l'évolution des symptômes, naturellement, il peut s'aggraver en fonction de la pathologie qu'on aura. Alors il y a des choses qui peuvent revenir relativement rapidement. S'il y a une infection suite à des interventions chirurgicales, ça peut évoluer très rapidement. Et dans d'autres cas, ça peut devenir petit à petit et évoluer naturellement lentement.
Est-ce que ça peut toucher n'importe qui ou il faut quand même avoir une pathologie assez précise ?
Alors, ça peut naturellement toucher n'importe qui. C'est vraiment quelque chose qui touche quasiment autant les hommes que les femmes. Naturellement, on sait que les femmes sont un petit peu moins protégées que les hommes pour des raisons anatomiques. Donc, on trouve plus jeunes, plus de femmes. Car l'homme, en raison de la profondeur des sphincters, de la présence de la prostate, est en général au début un peu plus protégé que la femme. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut toucher absolument n'importe qui.
À n'importe quel âge ?
Exactement. Alors aussi, on a un petit peu cette image quand on parle d'incontinence d'une personne plutôt âgée. Mais l'incontinence, elle arrive aussi même chez les enfants, dans l'enfant qui souffre d'énurésie, donc qui sont des pertes d'urine complètes involontaires durant le sommeil, chez des enfants qui n'ont pas encore eu la maturité vésicale, c'est-à-dire avant 5 ans, c'est encore, on peut dire, normal où ça peut arriver. Après, il y a les enfants énurésiques. Il y a aussi les jeunes sportifs, plutôt les filles, qui font des sports avec des sauts, des chocs, des charges importantes. Toujours chez les dames plutôt jeunes, après les accouchements, c'est aussi très fréquent d'avoir des périodes d'incontinence. Mais en général, c'est vrai que l'incontinence augmente avec l'âge. Et c'est quelque chose qui est vraiment très fréquent, mais dont on parle peu. Donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, qui est tabou. En Suisse, on compte à peu près 10 millions de personnes qui sont touchées à des degrés différents. Et les études, en tout cas en Europe, montrent que cette proportion par rapport à la population, elle est plus ou moins la même. En France, c'est 3-4 millions de personnes touchées. Donc c'est vraiment ça peut toucher tout le monde à tous les âges.
Alors justement, vous parlez de sportifs, vous avez parlé aussi d'après l'accouchement pour les femmes, aussi d'après une opération. Est-ce qu'il peut y avoir des événements, des chocs ou des accidents qui peuvent aussi provoquer un trouble de la vessie ?
Alors, voilà, regardez, il y a les causes, elles sont multiples à différents endroits. Alors, il y a des, si vous parlez d'accidents, il y a des cas naturellement de traumatisés médullaires suite à un accident de la route, les nerfs peuvent être touchés. Donc, l'incontinence, elle sera suite à un problème neurologique, qu'on retrouve aussi dans des cas de, si des personnes ont des tumeurs au niveau du petit bassin, il peut aussi avoir des suites avec des incontinences. Par exemple, des hernies discales également peuvent provoquer ça. Donc là, c'est vraiment important de nouveau de consulter quand c'est des origines de ce type. Ça peut vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'incontinence n'est pas vraiment une maladie, mais c'est le symptôme de quelque chose d'autre. Donc il faut toujours aller consulter son médecin ou l'urologue pour vraiment savoir d'où ça vient.
Jusqu'à 9h, format A3.
Et nous sommes de retour avec notre invité, Julien Lambert. Il est physiothérapeute et ce matin, on parle de la vessie.
Il donnera d'ailleurs une conférence mercredi prochain avec pour titre « Ma vessie, un tabou ».
Julien Lambert, à quel moment est-ce qu'il faut consulter ?
Alors, c'est une question très intéressante parce qu'il y a énormément peu de personnes déjà qui consultent. On estime qu'il y a à peine un tiers des personnes qui sont sujettes à l'incontinence qui consultent parce que c'est un tabou, on se gêne, on pense qu'on peut rien faire. Et voilà. Et donc, il faut vraiment consulter relativement rapidement parce que ça peut justement être le signe d'une maladie qui est sous-jacente. Donc il faut vraiment motiver les gens qui se reconnaissent dans ces symptômes que je viens d'expliquer et au plus vite d'aller voir son médecin de famille qui va, si c'est nécessaire, orienter vers un neurologue ou un autre spécialiste. Donc c'est vraiment important que les gens comprennent bien qu'ils sont malheureusement pas seuls. C'est quelque chose de très répandu et il faut qu'ils remédient à ça parce que l'incontinence, parallèlement, met les personnes, vu que c'est en général les personnes âgées, dans un isolement social, parce que les gens ont des gènes, ils vont penser que peut-être que ça sent mauvais, ils sont mouillés, ils peuvent pas se rechanger. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne sortent plus, qui sont stressées, qui ont une qualité de vie qui est vraiment diminuée à cause de ça. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui arrive très fréquemment et il faut qu'ils consultent au plus vite.
C'est irrémédiable, c'est irréversible? Ou alors, en consultant, on peut justement fortement améliorer la qualité de vie?
Alors voilà, dans la grande majorité des cas, et avec en fonction de la cause qui a provoqué l'incontinence, c'est que très rarement irréversible. Il y a quelques cas où il y a vraiment suite à une opération, des structures de la vessie ou du plancher pelvien qui sont lésés, où là, ça peut être irréversible dans certains cas neurologiques, mais dans la grande majorité des cas, on arrive à guérir totalement ou en tout cas à améliorer nettement le quotidien. Donc, c'est vraiment, dans très peu de cas, c'est irréversible et dans quasiment, pour tous les patients, on arrive vraiment à améliorer ou à résoudre le problème.
Alors justement, quand un homme consulte son médecin de famille ou bien vient chez vous, comment ça se passe? Quels exercices vous faites?
Alors, ça dépend toujours un petit peu de pourquoi il vient chez moi. Alors, dans mon cas particulier, c'est en 90% des cas, ce sont des hommes qui ont eu un problème de prostate. Donc, soit un cancer de prostate ou un adénome, ce qu'on appelle la grosse prostate, suite à une opération en général, et ces patients-là vont avoir une incontinence, en général qu'on appelle une incontinence d'effort. Donc, on va travailler au niveau du plancher pelvien, qui est une musculature qui est profonde, qui se trouve dans le bas du bassin, et les patients vont apprendre déjà à maîtriser ce muscle, à le ressentir, parce que c'est un muscle profond qui n'est pas si facile à maîtriser et je leur apprends à ressentir ce muscle et ensuite avec des exercices bien spécifiques ils devront s'entraîner à la maison pour redonner du tonus à ce muscle ou à ces muscles plutôt pour un petit peu mieux verrouiller leur plancher pelvien et diminuer ses fuites.
En quelque sorte, il faut apprendre à connaître ou à redécouvrir son corps.
Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment, dans les premières séances, en tout cas, c'est vraiment quelque chose j'appelle ça la prise de conscience, parce que je pense qu'il est indispensable de bien ressentir où on veut travailler, parce que sinon on lâche les patients, parce que c'est à eux de faire le travail ensuite à la maison. Donc s'ils sont pas au bon endroit en faisant les bonnes choses, ils pourront travailler, faire leurs exercices pendant des semaines, voire des mois, sans que ça apporte quelque chose. Donc vraiment, ils doivent être au ressentir leur corps, être en accord, et c'est vraiment un travail de prise de conscience au début.
Ma vessie, un tabou, c'est le titre de la conférence. Les hommes, ils ont plus de peine que les femmes à parler de ce sujet, à consulter, à en parler à leur médecin.
Je pense en effet qu'ils ont plus de peine pour la simple et bonne raison que chez les femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça arrive un petit peu plus tôt et c'est plus courant dans la vie. Donc les gynécologues en parlent, orientent. Il y a beaucoup plus de thérapeutes dames qui s'occupent de rééducation du plancher pelvien, tandis que chez les hommes, ça arrive un petit peu plus tard. Ça touche à la prostate, c'est quelque chose d'intime, également chez la femme, bien évidemment. Mais l'homme n'est peut-être pas habitué, je dis toujours, voilà, on parle volontiers, j'ai une prothèse de genou, j'ai eu un ligament croisé, d'autres opérations, mais ça, on a l'impression qu'on est seul, on se gêne et on en parle moins. Donc, c'est la raison pour laquelle ils en discutent certainement moins, oui, en effet.